Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et tous. Au programme de cette émission exceptionnelle, entièrement consacrée au féminisme dans leur approche de l'architecture et de la ville, un éditorial consacré à la notion de genre et une rencontre avec Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences en sciences humaines et sociales à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, autrice d'une précieuse anthologie « Des voix s'élèvent, féminisme et architecture », texte traduit par Marie von Effenter aux éditions de La Villette. 22 euros, je précise ça, pour les cadeaux de Noël.
Urbanité. L'édito.
Le genre est encore une idée neuve en France. Dans Homo Urbanus, en 1990, j'évoquais cette importante question en expliquant que la ville dégenre, ce que j'ai réitéré peu après dans un article, dans lequel le correcteur, ou la correctrice, je ne sais pas, me fit écrire « La ville dérange ». En 1999, je dirigeais le dossier féminin de la revue Urbanisme, qui mêlait témoignages de praticiennes, architectes et urbanistes, et réflexions théoriques. Il montrait la suprématie des hommes, et de leur point de vue, dans la conduite des opérations urbaines, tout comme en architecture. À cette époque, aucune femme n'était titulaire d'un enseignement du projet architectural dans une des 24 écoles françaises, malgré le nombre déjà imposant d'étudiantes. Aujourd'hui encore, aucune étudiante, aucun étudiant, en architecture, paysage ou en urbanisme, ne reçoit un enseignement obligatoire sur le genre. Aussi sont-ils généralement persuadés que l'architecture, le paysage, l'urbanisme sont neutres, qu'ils n'ont pas de genre. Peut-être, en présentant certains symboles architecturaux ou certaines formes urbaines, l'enseignant se surprend-il à évoquer quelques interprétations érotico-psychanalytiques. Plus souvent, sur le ton de la gauloiserie, il accorde au sexe ce qu'il dénie au genre, en évoquant l'érection d'un gratte-ciel. Pourtant, n'en déplaise au pouvoir masculin, largement dominant dans notre société, la ville et le logement sont profondément marqués par la question du genre. La femme et l'homme, si différents, n'évoluent pas de la même façon dans l'espace construit, ne réagissent pas de la même manière au design des objets de leur vie quotidienne, n'appréhendent pas pareillement tout ce qui constitue la ville. Même l'urbanité, cette forme de politesse en voie de disparition, est sexuée. Notre société distingue sans cesse le masculin du féminin dans les mots, les lieux, les travaux, les outils, les sentiments, en faisant croire qu'il s'agit de la normalité. C'est là précisément la caractéristique de la domination masculine, comme le note pertinemment Pierre Bourdieu, que je cite « La force de l'ordre masculin se voit au fait qu'il se passe de justification. La vision androcentrique s'impose comme neutre et n'a pas besoin de s'énoncer dans des discours visant à le légitimer. Mais que signifie genre et féminin ? Le premier terme a d'abord la valeur latine de catégorie, de type ou d'espèce liée au sens de race qui a disparu depuis l'époque classique. Le sens de sexe, étroitement lié à gignéré, engendré et qui a subsisté dans génération, dans génésique, ne s'est pas maintenu. C'est l'idée générale de groupement ou de catégorie qui domine l'ensemble des emplois de ce terme au cours de l'histoire. Je cite évidemment Alain Rey, le célèbre dictionnariste. En effet, on parle volontiers du genre humain. Quant au second terme, il désigne ce qui est relatif à la femme. Mais d'où vient le mot « femme » ? Il est issu, début du Xe siècle, du latin « femina », qui signifie à l'origine « qui allaite » et se rattache à une racine indo-européenne « dé », qui signifie « téter », comme « félare », « sucer », qui va donner en français « fellation », « félix », qui va donner « heureux », parce que c'est la félicité. « Femina » a le sens de femelle d'animal, puis de femme et d'épouse. Ces deux mots ont certes une connotation biologisante, « engendrer » et « allaiter », mais marquent avant tout une distinction qui, historiquement, cache ou non une discrimination, voire une ségrégation, une domination et une exploitation. Les rues des villes, pour les hommes, du moins certains, sont érotiques par la présence même de l'objet de leur désir, les femmes. Parmi bien d'autres témoignages de ce que la revue Les Temps modernes de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir présentait sous la rubrique féministe du sexisme ordinaire, ce sexisme fier de lui, car à la gloire de la femme soumise et dépendante, un peu comme le héros du film de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, je propose un extrait de Héros de Paris, de Jules Romain, publié en 1932. Il lâche son personnage, Gère Fanion, dans les rues parisiennes, celui-ci reste éberlué. Je cite Jules Romain. « Il se dit qu'il y a beaucoup de femmes, il se le dit avec fraîcheur et puissance, et ne sourit pas d'en être à des constatations pareilles. Il y a beaucoup de femmes et nombre d'entre elles sont jeunes et désirables, d'autres ont une maturité qui ne les empêche pas d'être désirables. Différemment désirables, mais désirables. Les yeux, les poitrines, les hanches, la merveilleuse oscillation des croupes, parfois un lourd roulis, un gros remuant circulaire, l'idée d'une jouissance produite par le poids, par l'enfouissement et l'écrasement, parfois un double mouvement de balancier, le rythme plus vif et plus malin d'une chair plus fine, la promesse d'une volupté entreprenante, ingénieuse, qui conduit les nerfs sans les lâcher jusqu'à la grande flamme où ils se brûlent. À chaque instant, il passe une femme qu'on serait peut-être content de quitter dans une heure, mais qu'il y aurait eu délice à posséder. C'est clair et net, est totalement unilatéral. Pour un auteur aussi reconnu, aussi célèbre, c'est quand même assez affligeant. Plus loin, le romancier, ou son personnage, mais enfin je pense que c'est le romancier, évidemment, poursuit son exploration sexuée de la rue. Je le cite à nouveau. « Malgré l'air de ce soir d'hiver qui doit leur glacer les jambes, de jeunes femmes sont assises aux terrasses des cafés, dans la baraque, près de la lampe à pétrole, la boucotière n'a pas 30 ans. On aperçoit par la porte du magasin des chaussures de jeunes vendeuses sveltes en tablier noir. Toutes ces femmes vont et viennent librement, s'assoient, se lèvent, passent près de vous. On ne les enferme pas, on ne les enchaîne pas. Beaucoup même ne sont pas accompagnées. Elles s'arrêtent quand il leur plaît devant un étalage, repartent. Personne ne les garde, personne ne vous défend de les approcher. Pas une de ces femmes n'est à lui, pas une de toutes les femmes de cette immense ville, jusqu'aux fortifications, jusqu'aux extrêmes banlieues, pas une ne l'a même été, ne serait-ce qu'une heure. » Je termine la citation là-dessus, évidemment. Les temps sont durs, voilà ce que nous dit Jules Romain. Il n'y aurait aucune pénurie de femmes, mais elles semblent indisponibles. Pourquoi, à nouveau l'auteur, chacune de ces femmes est à quelqu'un, est possédée par quelqu'un. Un homme a le droit de mettre ses lèvres sur elles, où bon lui semble, de les embrasser en pressant leur poitrine sur la sienne, de flatter à travers la jupe leur croupe vibrante, de glisser la main dans leur corsage, de défaire les boutons, les agrafes, les rubans. Pas une de ces femmes, en réalité, qui soit libre, qui attende encore. Ce serait trop beau. Paris ne peut pas laisser une femme attendre. Il est évident que toutes sont déjà prises, qu'elles ont été de suite, qu'on serait toutes venues trop tard. Voilà un exposé que son auteur lui-même ne considère pas sexiste, mais qui l'est profondément et qui explique pourquoi tant de femmes hésitent à se promener, tout simplement à marcher seules dans la rue comme n'importe quel homme. Dans le très juste film de Catherine Corsini, La belle saison, qui a été sur nos écrans en 2015, on voit un groupe de féministes, nous sommes juste dans l'immédiat après 68, se comporter comme des hommes. C'est très drôle, à leur égard, et les harceler banalement. Les femmes disent à des hommes « T'es bien roulé, t'as des belles fesses, t'es libre ?» La réaction agressive des hommes ainsi interpellés démontre bien que la rue n'appartient pas à tous. Et la nuit, encore moins. En 2012, une étudiante en cinéma, Sophie Peters, décide de filmer le harcèlement quotidien dont elle est victime dans les rues de son quartier de Bruxelles, avec une caméra cachée. Je vous signale que vous pouvez le voir sur Internet. Il faut absolument voir ce tout petit film de 17 minutes. On y entend des propositions à caractère sexuel, des compliments machistes, comme « petites fesses » et des insultes, « salope »,« chienne ». En 2014, Rob Bliss de l'association Ola Back filme durant 10 heures à New York une jeune femme qui sera tour à tour vertement draguée et insultée, et ce, à plus de 100 reprises. C'est même extraordinaire de regarder ces deux films parce que les hommes interpellent ces femmes d'abord avec une fausse bonhomie, complimentent, ah t'es jolie, ah quel beau sourire, etc. Et très très vite, dès que la jeune fille continue son chemin ou fait un signe de désapprobation, elle est insultée, mais alors là avec une violence absolument incroyable. Un rapport de 2015 pour le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes stipule que 100% des utilisatrices de transports en commun en France ont subi un harcèlement sexiste ou une agression sexuelle. La main aux fesses est un geste banal, le harceleur type n'existe pas, il est indifféremment jeune ou plus âgé, diplômé ou pas, immigré ou autochtone, la classe politique connaît également ce type de comportement comme l'actualité nous le révèle en ce moment, les femmes hésitent à s'habiller comme elles veulent pour ne pas provoquer, elles intériorisent ce danger et parfois même culpabilisent. Pour ruser contre l'ennemi potentiel, elles portent des pantalons ou sont pendues à leur téléphone portable, même inactif. C'est vers 9-10 ans, un peu avant la puberté, que les filles désertent les espaces publics et tout le monde l'admet. Encore enfants, elles peuvent jouer dans les pitoyables aires de jeu du parc de la mairie ou du grand ensemble, sous la surveillance d'une nounou ou d'un parent, qui depuis est accroché à son téléphone portable. Mais, préadolescente, la rue se fait potentiellement violente, avec les groupes de garçons qui y règnent en roitelet. De trop rares études sociologiques ou géographiques, je cite là deux auteurs, Dimeo et Rebo, constatent avec cette inégalité de traitement. D'une part, la municipalité investit davantage pour les occupations des garçons que pour celles des filles. D'autre part, la société en général, comme ça, pratique un enfermement préventif des filles, alors même qu'elle invite les jeunes filles à plaire aux garçons à travers les séries de télé, les jeux vidéo, les publicités, les magazines pour les jeunes filles, etc. Devenues adultes, les femmes seules se voient toujours interdites de ville, ou alors à plusieurs. Des réglementations existent, par exemple à l'échelle de l'Union européenne, mais elles tardent à être appliquées. En Europe du Nord, des éclairages publics ont été installés dans des endroits sombres pour sécuriser un trajet. Des compagnies de taxi au Québec assurent un accompagnement de leurs clientes. Le chauffeur attend que le hall d'entrée de l'immeuble soit allumé pour s'en aller. Des campagnes d'affichage dénoncent ces agissements machistes, en particulier à proximité des campus. J'en ai vu bon nombre aux États-Unis. Sporadiquement, la presse évoque tel ou tel harcèlement, ce qui ne suffit pas pour rompre le mur du silence. À Gennevilliers, l'association Les Urbaines travaille sur les femmes en ville et préconise plus de bancs, en particulier pour les femmes plus âgées, la pratique du vélo, car la cycliste est alors à l'abri des attouchements si fréquents dans les transports en commun, l'ouverture de jardins partagés, ayant observé que les femmes s'y rendaient sans crainte. À Malmö, en Suède, les skateparks sont pour les femmes au moins un jour par semaine. Dans d'autres villes, les parcours des jeugeux sont balisés de signes reliés au poste de police. En arrivée là, il y a quand même quelque chose d'effrayant. Ailleurs, des wagons du métro sont réservés exclusivement aux femmes. Au Caire, à Tokyo, Osaka, New Delhi, Mumbai, Rio, ce qui accroît la ségrégation sexuelle tout en assurant aux femmes plus de tranquillité le temps d'un parcours. Voyant un wagon quasi vide dans un train de banlieue à la gare centrale de Mumbai, j'y grimpe. Les femmes se moquent de ma méprise et à l'arrêt suivant, évidemment, je quitte ce wagon exclusivement réservé aux femmes pour me glisser dans la foule masculine de celui d'à côté. Au Caire, raconte Corinne Fortier, un homme portant un voile intégral, ayant rendez-vous avec sa maîtresse, a été trahi par ses chaussures. Elle fait état de plusieurs études égyptiennes aux résultats concordants. L'on compte, à cette époque-là, il y a plus de 10 ans, 55 viols chaque jour dans cette ville du Caire. Dans toute l'Égypte entière. 55 viols par jour. Et la police, évidemment, ne fait pas grand-chose. Du reste, le délit de harcèlement sexuel n'existe pas dans le code pénal égyptien. Et la majorité des femmes questionnées ont été dans la rue ou les transports l'objet d'insultes, de regards indécents, de contacts physiques et ont été suivies dans la rue ou contraintes à voir le sexe de leur harceleur. Corinne Fortier n'établit aucune corrélation probante entre le port du voile et la relative tranquillité de la femme dans l'espace public, contrairement à ce qu'on nous dit parfois ici en France. Depuis la journée de la jupe, lancée dans un lycée breton en 2006, et la sortie en 2009 du film de Jean-Paul Lilienfeld avec Isabelle Adjani, La journée de la jupe, elle réclame le droit de s'habiller comme elle veut sans être immédiatement dénoncée comme pute, je prends l'expression de l'époque évidemment. Nassim Adris constate dans le cas algérois que plus une femme s'éloigne du quartier, ou Ma, pour se rendre au centre-ville avec ses boulevards et avenues particulièrement fréquentées, plus elle bénéficie de l'anonymat. Une jeune femme lui confie « De toute façon, je travaille à Alger Centre, je porte le voile ici, dans son quartier, mais dès que je m'approche de mon lieu de travail, je l'enlève. Je porte des jupes courtes, je soigne mon maquillage et ma coiffure, je sors, je vais au restaurant. Le soir, ni vu ni connu, je remets mon foulard et ma djellaba pour retourner dans mon quartier où beaucoup de femmes portent l'hijab. » N'est-ce pas un dédoublement de personnalité, une sorte de schizophrénie, avec l'urbanisation des mœurs et l'augmentation du nombre de femmes qui travaillent, leur contrôle par les hommes et la religion devient beaucoup plus difficile. Néanmoins, il sévit encore. Lors des vendredis de la révolte en 1992, il y a très longtemps, les islamistes du Front islamique du salut convièrent les femmes à rejoindre les mosquées par des accès séparés de ceux des hommes, tout en revêtant un voile ou une tenue plus complète afin de combattre le régime en place. Cet acte qui pourrait ressembler à une libération n'était que la confirmation de la soumission au pouvoir masculin. Lors du second servage au XVe siècle, firent en ville, pour l'Europe, le moyen de se dégager de la subordination au seigneur. Et c'est à ce moment-là où apparaît un adage, bien souvent attribué à Max Weber, ce qui est faux, l'air de la ville rend libre. Dorénavant, cette corrélation entre ville égale liberté n'apparaît plus du tout automatique. Des femmes africaines quittent le puissant patriarcat et rural pour se retrouver sur les trottoirs de la ville. D'autres femmes venues des Philippines sont enfermées dans des villas d'Arabie Saoudite avec la confiscation de leurs passeports pour devenir des esclaves domestiques et parfois sexuelles de leurs patrons. Des rues pour chacune et chacun, il faudrait aussi évoquer les actes homophobes et contre les transgenres, sans discrimination, sans violence, voilà un rêve à concrétiser. L'historien de la civilisation médiévale, Jacques Le Goff, relève que dans les villes de cette époque, les femmes prenaient plutôt tel itinéraire, exerçaient tel métier, utilisaient tel outil, ce que confirme Ivan Illich dans son remarquable essai, aussi méconnu que mal interprété, « Le genre vernaculaire », publié en 1983. Il y distingue genre et sexe, je le cite. Le genre est une donnée première, c'est aussi une entité sociale exigeant un complément et n'est jamais en soi complet. Les gens ne se comprennent qu'ensemble, comme le yin et le yang. Par ailleurs, ajoute-t-il, il est toujours vernaculaire. Le sexe est une construction du capitalisme avec le travail salarié et son corollaire, le chômage. Je cite à nouveau Ivan Illich, « Le sexe est le résultat d'une polarisation des caractères communs qu'on attribue depuis la fin du XVIIIe siècle à tous les êtres humains, à la différence du genre vernaculaire, lequel reflète une association culturelle entre une culture matérielle duale, concrète et locale, et les hommes et femmes vivant sous son emprise. La division sexuelle de la main-d'œuvre, de la libido, de la personnalité ou de l'intelligence résulte du diagnostic, en grec, ce terme désigne la discrimination, de déviation par rapport à une norme abstraite définie dans ce but. Le sexe peut être étudié en termes scientifiques précis, le genre annonce une complémentarité énigmatique et symétrique. Seule la métaphore parvient à l'exprimer. » Fin de citation. C'est dire s'il est impossible de les comparer. Pour qu'il y ait sexe, il faut suivre dans ces divers méandres l'histoire de l'hétérosexualité, du couple, de la famille nucléaire, mais aussi celle du travail, des transformations, des égalités de traitement et celle, bien sûr, de leur représentation. Si l'on veut que tout individu, quel que soit son sexe, puisse être autonome dans la vie, dans ses rues, ce détour historico-théorique illichien s'avère indispensable. Ce ne sont pas des nouveaux règlements qui modifieront toute une culture, qui justifient sans cesse la supériorité d'un sexe sur un autre, mais la prise en compte du genre, la rue, curieusement, devient philosophique et ne se satisfait pas d'une quelconque égalité des usages.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il n'est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, main baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté.
Stéphanie, pourquoi cette anthologie ?
Alors déjà merci pour cette invitation à ce sujet qui m'est très cher. Donc cette anthologie revient à l'époque où j'étais encore étudiante en licence, donc assez jeune on va dire, et parce que je me rappelle de la tête que j'avais fait en découvrant un ouvrage, l'ouvrage de Dolores Hayden, The Grand Domestic Revolution, traduit en français par La Grande Révolution Domestique. C'est un livre qui n'est pas traduit, hein, mais je le traduis ainsi.
Le titre, oui.
Voilà. Donc, dans cet ouvrage, je découvrais implicitement le croisement de quatre niveaux de lecture. Et c'est ces quatre niveaux de lecture qui me pressent jusqu'aujourd'hui à traiter de cette question du genre. Tout d'abord, la remise en question de ce que vous étiez en train de dire dans l'introduction, donc cette pseudo-neutralité des espaces, très importante. Deuxièmement, l'assignation des femmes à certains lieux et leur interdiction non dite ou implicite vers d'autres, notamment l'espace public, mais pas que. Mais aussi l'invisibilisation de certaines histoires dans l'histoire de l'architecture. Un retour donc sur l'historiographie, la manière dont on écrit l'architecture, et finalement le rôle des femmes dans la profession de l'architecture. Alors elles n'étaient pas architectes parce qu'on ne leur ouvrait pas les portes des écoles, mais elles ont eu des rôles majeurs dans la construction de nos villes et des bâtiments. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois ces quatre niveaux de lecture, mais aussi le croisement de ces quatre niveaux de lecture dans la reproduction de ces mécanismes dans le champ au sens plus large de l'architecture.
Alors comment avez-vous effectué le choix de ces 13 textes ? J'imagine qu'il y avait un corpus, comme on dit, excessivement abondant.
Alors tout à fait. Alors je voudrais juste aussi ajouter que moi-même, j'ai étudié et j'ai enseigné dans plusieurs écoles d'architecture de design en France, aux États-Unis, au Liban, etc. et que je n'avais jamais lu à l'école ces textes-là. Donc c'est en effectuant une thèse de doctorat que je suis tombée sur des textes, sur une multiplicité de textes, donc sur un corpus de textes. Alors comment j'ai effectué ce choix-là de 12 textes ? Alors ces 12 textes ont en commun de s'insérer dans des revendications féministes, c'est le fil conducteur, mais les revendications féministes de la deuxième vague, au tournant de la troisième. Donc on est au tout début de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. On n'y est pas encore tout à fait et on y est presque. Ils se positionnent aussi tous par rapport à un milieu architectural hégémonique et surtout, ils sont rédigés par des architectes. Ça, c'était très important pour moi, que ce soit vraiment des interrogations de l'ordre de l'architecture et de la ville. Quand je dis architecture, c'est aussi ville et paysage, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais que ce ne sont pas des interrogations qui ont été posées depuis les départements de sciences humaines et sociales ou démographie ou autre. Voilà, ce sont vraiment des interrogations à l'intérieur du champ architectural.
Alors, vous privilégiez des auteurs anglo-saxons, nord-américains plus particulièrement. Est-ce que vous avez l'intention de faire un autre, ou d'autres, parce qu'il peut y avoir plusieurs anthologies, avec des textes de femmes, ou pas forcément de femmes, architectes féministes, en Italie, en France, au Japon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en Allemagne, il y en a pas mal.
Oui,
etc.
Tout à fait.
Donc vous avez si ce livre marche bien. Il faudrait le compléter,
alors,
non
oui, ça serait intéressant. Alors, il y a deux choses. Alors, déjà, il y a maintenant, c'était durant la Covid, on avait organisé avec des collègues un colloque sur les gender dynamics dans la profession, les dynamiques de genre dans la profession de l'architecture de la ville et du paysage. Donc, les actes de colloque vont sortir au printemps prochain aux éditions Parenthèses. Et puis là, effectivement, c'est très européen. Et puis, c'est très contemporain. Donc les textes vont être publiés. Alors personnellement, je ne ferai pas pour l'instant, en tout cas, une autre anthologie, mais l'intérêt de ces études-là, de ce cadre épistémologique féministe, m'accompagne toujours et dans les autres recherches que je mène, disons, là en ce moment je travaille sur les migrations, il est fortement mobilisé. Et c'est ça qui est intéressant avec cette anthologie-là, avec ces textes-là, c'est qu'il s'agit vraiment d'un cadre théorique, d'un cadre conceptuel, qui nous permet d'interroger des questions qui, a priori, ne sont pas des questions de genre. Et c'est pour ça que, ce sont des textes qui me semblent fondamentaux pour quiconque travaille.
C'est pour ça que, dans le titre, c'est féminisme, c'est pas genre. Vous entendez par féminisme, puisque vous le mettez au pluriel, premièrement.
Oui.
Et deuxièmement, est-ce que vous adoptez une citation ? J'ai noté dans votre propre livre, dans une note, que Linda Gordon expliquait que le féminisme revenait à partager une impulsion pour accroître le pouvoir et l'autonomie des femmes dans leur famille, leur communauté et ou la société. Est-ce que vous adhérez à cette définition ? J'imagine que oui, mais est-ce que vous la compléteriez, par exemple ?
Oui, alors je la compléterai par une chose très importante au regard des manières dont on perçoit aujourd'hui le féminisme, en disant que ce n'est pas un sujet théorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous étiez en train de le dire, on est loin d'appliquer ce qui, dans la loi, ce qui théoriquement devrait exister depuis très longtemps, depuis des siècles maintenant. Et c'est ça qui m'importe. Pour moi, le féminisme, et là je vais lire mes notes parce que voilà, je compte bien le définir, prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, mais plus largement le vivant, et exprime les modalités de transformation de ces conditions, puisqu'il est reconnu comme un mouvement dont les combats évoluent au fil du temps et selon les contextes. C'est-à-dire que le féminisme des années 60 n'est pas celui d'aujourd'hui et ni celui de demain matin. Et donc, voilà, ces questions féminisme, c'est un regard critique qu'on porte vis-à-vis de la société. Et puis, il est en perpétuel mouvement et il nous accompagne dans ces mouvements-là à réfléchir la société.
Alors, vous l'avez dit, il y a 12 textes, enfin un 13e qui est un peu un complément des autres, bon, peu importe. On n'a pas le temps malheureusement de les disséquer un par un, donc j'en ai retenu 3, même si tous m'ont intéressé, y compris celui du reste sur le quand ce sont des femmes qui se font construire une maison. Alors, elles ne sont pas architectes, mais elles sont commanditaires, et voir comment des hommes du reste qui construisent ces maisons tiennent compte ou pas de leur demande. Bon, mais laissons ça pour l'instant de côté.
D'accord.
On va prendre celui de Anne-Marie Adams, qui montre que l'architecture, tout comme les savoir-faire constructifs, favorise le pouvoir masculin, et elle fait une étude plutôt sur la fin du 19e siècle. Alors, qui est cette femme et quelle est la thèse, j'allais dire, de son article?
D'accord, je vais prendre mon temps pour bien mettre en contexte, parce qu'elle est très peu connue en France, effectivement. Donc, Anne-Marie Adams est architecte de formation. Elle a fait ses études au départ à McGill, à l'Université McGill, en architecture à Montréal, puis son master et sa thèse à Berkeley avec l'historien Dale Upton, qui, pour en avoir interviewé plusieurs, était vraiment un historien qui initiait les regards du genre dans les écoles. Donc la conclusion, j'ai publié dans l'anthologie, et c'est Marie Van Effenteré effectivement qui a traduit le texte, la conclusion de son ouvrage, qui est lui publié en 1996, qui est issu de sa thèse de doctorat et qui s'intitule « Family Way, Doctors, Houses and Women, 1870 à 1900 ». En France, les personnes qui travaillent sur l'histoire et la sociologie de la profession connaissent bien Anne-Marie Adams parce qu'elle a publié un ouvrage qui s'appelle « L'architecture au féminin, une profession à redéfinir » qui a été publié en 2002 en français. Mais revenons au texte de l'anthologie. Donc, c'est un texte qui se concentre sur l'Angleterre et en particulier sur Londres. Une variété de sources sont mobilisées, d'où aussi l'intérêt de croiser des documents d'architecture à des documents qui n'ont rien à voir à l'architecture, qui vont des magazines féminins aux annuaires médicaux, etc. Anne-Marie Adams fait remarquer que le mouvement sanitaire, qui était responsable d'un nombre important de réformes spatiales en Grande-Bretagne, dans la santé publique, au milieu de l'époque victorienne, s'est beaucoup intéressé sur les foyers ouvriers. Mais que c'est vers la fin du siècle que la maison bourgeoise est devenue un cabinet de curiosité d'une certaine manière. C'était dû à la lente acceptation de la théorie des germes et du miasme, donc cette idée qu'il fallait rendre plus hygiéniques les lieux de vie et que le mauvais air pouvait circuler dans les murs, dans les matériaux, mais aussi dans tous ces dispositifs nouveaux qui étaient auparavant à l'extérieur des maisons, comme les toilettes, et qui se trouvaient tout d'un coup dans les maisons. Donc l'une des parties les plus intéressantes de son livre montre la façon dont les architectes ont été marginalisés de ce débat et que ce sont les médecins et les femmes qui se sont emparés de cette question. Alors qu'il est du devoir du médecin de soigner, de guérir, le devoir de la femme est de pratiquer une médecine préventive, vigilante à l'intérieur de la maison. Et tout d'un coup, la maison, cet espace qu'on considère privé, devient un espace public, puisque tout le monde est convoqué à ces réflexions-là, notamment les plombiers, parce que toutes les canalisations sont redessinées par les médecins et les femmes. Donc c'est vraiment une très drôle histoire qu'elle rapporte comme ça, en faisant usage de la triade maison-corps-femme pour montrer dans la manière dont les femmes n'étaient pas du tout passives et qu'elles se sont vraiment emparées de cette question pour repenser la maison. Donc voilà, c'est un ouvrage assez érudit dans sa manière d'aborder le chose et surtout qui nous montre le côté très marginal de l'architecture, de l'architecte, comme quelqu'un qui va réfléchir la beauté des lieux, mais sans une réflexion sur son organisation au vu de ses réformes sanitaires.
Alors, prenons un autre texte d'un des deux auteurs masculins de votre anthologie, Marc Vinclay, qui nous montre un Alberti un peu fréquentable, enfin vraiment sexiste. Et ça, c'est intéressant parce que bien souvent, c'est des personnages intouchables, enfin ces grands théoriciens de l'architecture. Et là, quand même, il met les pieds dans le plat.
Tout à fait. Alors, pour introduire ce texte, je vais dire quand même deux petites choses. C'est un texte assez particulier parce que Marc Vinclay lui-même travaille sur des textes qui ont déjà été traduits, qui ne sont pas rédigés en anglais, hein, donc les textes d'Alberti, qui sont eux-mêmes traduits plusieurs fois. On ne sait pas exactement toujours à quelle référence de texte...
Oui, j'ai regardé si c'était l'édition...
C'est pas les éditions...
De Joseph Rickwert.
Oui.
Et non.
Alors, non,
c'est
non,
celle
non,
qui fait la référence
fait.
Aujourd'hui. Quoi.
Et donc, voilà. Donc c'est aussi une complexité. Le travail de traduction avec Marie a été assez complexe de ce point de vue-là. J'ai hésité à plutôt utiliser un texte de Diana Agrest qui revient sur cette thématique-là. Et finalement, je me suis dit, il fallait quand même un auteur masculin, sinon on allait me le reprocher. Et donc, je prends celui de Marc Vinclay. Alors, Marc Vinclay part du principe que le genre est vu comme une donnée extra ou plutôt pré-architecturale. Et se pose la question, dans cette perspective-là, que protège-t-on exactement dans l'institution architecturale et pour qui ? C'est-à-dire, à quelle fin ? Donc, le texte d'Alberti, selon ses mots, est suspendu entre des arguments classiques qu'il s'approprie et ceux que l'on associe au XIXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'il fait en réalité, Vinclay ? Il reprend plusieurs parties de ce texte pour montrer qu'Alberti, et je reviens sur une partie en particulier, est opposé au plaisir des sens. Et ces plaisirs-là, bien sûr, sont une accusation envers le corps de la femme. Ça, c'est très clair. Donc, ce plaisir des sens est une femme. Et si on suit la femme... Elle sait se rendre maître, maîtresse, et donc il faut la fuir et surtout l'haïr. Alberti décrit ce désir en détail comme un vil grossier, honteux, immodeste, je reprends ces termes, bestial et sans pitié. Mais surtout, il explique qu'un tel plaisir devrait être condamné, car il est dangereux, et qu'il ôte toute raison aux hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que Vinclay, en tout cas, nous montre comment... En revenant sur des dispositifs spatiaux, nous montre comment théorie et édifice se rencontrent, que ce soit par des représentations, des métaphores ou des applications directes, comme par exemple en revenant sur le premier véritable espace privé qui est le cabinet d'études qui est réservé à l'homme dans la maison, qui est une petite pièce fermée à clé, attenante à la chambre, dans laquelle personne d'autre ne pénètre que cet homme-là, qui est un espace intellectuel situé au-delà de la sexualité. Donc, il nous dit que ce type de pièce apparaît au XIVe siècle, puis se banalise durant tout le siècle suivant. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours ces métaphores sur le texte d'Alberti et puis des parallèles avec des spatialités créées en parallèle de tout cela. Mais, disons, la chose principale, c'est que le texte d'Alberti, pour Vinclay en tout cas, est marqué par l'invention de la vie privée. Par une idéologie de la vie privée et un genre de résistance à la sexualité. Par une attitude nouvelle envers le corps discipliné, le corps disciplinaire, et un ordre social qui impose au corps d'être ségrégué, d'être lavé. Il revient vraiment sur le corps de la femme comme une impureté et tous les dispositifs mis en place pour laver ce corps et le rendre plus pur. Donc, la relation entre le corps est traitée comme un édifice et la tentative de privatiser les corps par les édifices peut être clairement observée.
Oui, alors là, il faudrait effectivement, je comprends mieux les questions qui se posent quand on lit le texte, parce qu'on pense aux autres écrits d'Alberti sur la famille, par exemple, bon, qui ont des aspects parfois assez intéressants, même plutôt pour l'époque assez novateurs. Je comprends mieux, effectivement, il faudrait voir les sources précises de l'auteur américain, mais en même temps, sa démonstration, est, à mon avis, tient la route, parce que, quel que soit le changement de terme ou de traduction, on a quand même cet état d'esprit-là, que
tout à fait.
De l'affectation de telle pièce correspond à la perception qu'on a de tel sexe.
Tout à fait, tout à
Alors,
fait.
Alors là, je prends une troisième parce que bon, c'est une star architecte, oui. Mais vous allez nous raconter que ça s'est pas passé si bien que ça. C'est Denise Scott Brown. Donc qui est-elle, avec qui vit-elle, avec qui travaille-t-elle et pourquoi n'a-t-elle pas été honorée comme son compagnon ?
Tout à fait. Alors, qui est-elle? Je ne sais pas s'il faut la présenter, mais je le fais quand même.
Oui, oui, oui.
Denise Scott Brown est une architecte et une urbaniste, praticienne, enseignante aussi. Mais voilà, son profil n'est pas du tout le même qu'Anne-Marie Adams ou Mark Quigley, qui, eux, sont vraiment dans les écoles d'architecture et pas praticiens du tout. Alors, Denise Scott Brown avait sa propre agence qu'elle a montée avec son partenaire de vie, avec son mari, Robert Venturi. Alors, avec Steven Isenour, ils ont fait paraître un ouvrage en 72 intitulé « Learning from Las Vegas », voilà, que l'on connaît assez bien dans le milieu. Et puis, ils ont conçu, par exemple, avec John Rauch, dans le cadre du projet Franklin Court, un projet qui a vraiment marqué le postmodernisme américain et très illustré dans l'anthologie, par ailleurs. Et dans ce texte-là, qui est écrit justement avant la remise du prix du Pritzker Prize, Denise Scott Brown énonçait déjà la discrimination à laquelle elle était confrontée depuis son mariage. C'est-à-dire, avant son mariage avec Robert Venturi, elle était pleinement reconnue comme architecte et comme enseignante. Mais une fois ce partenariat signé, on va dire, à partir de 1967, elle a dû mener une lutte pour être reconnue comme associée de cette entreprise, de cette agence qu'elle avait cofondée avec Venturi. Donc, ce texte est publié avant sa ségrégation en 91 lors de la remise du Pritzker Prize à Robert Venturi. Mais encore plus, elle avait rédigé ce texte-là 10 ans avant sa publication. De peur, nous dit-elle, que cette publication freine les projets de l'agence. Parce que voilà, elle met en place cette critique-là. Alors, elle décrit plusieurs situations qu'elle vit au cours de sa carrière. Notamment, elle revient sur les critiques qu'elle a reçues et sur une déconstruction du star system, comme un système pyramidal où un architecte, un génie, serait à lui seul maître de l'œuvre, hein, et que toutes ces personnes qui travaillent avec lui, autour de lui, ne sont pas reconnues. Donc elle revient énormément là-dessus et elle nous dit, je vais quand même lire cette phrase parce qu'elle est assez magique, elle se demande donc pourquoi les architectes ont-ils besoin de créer des stars, et elle nous dit c'est parce qu'à son sens, l'architecture a affaire à l'incommensurable. Bien qu'il s'agisse à la fois d'une science et d'un art, les architectes conservent ou perdent leur estime de soi ou celle de leur père, selon qu'ils sont considérés ou non comme de bons concepteurs, suivant des critères qui sont mal définis, voire impossibles à définir. Et elle revient donc ensuite sur la définition de ces canons, de ces normes, de ces critères qui sont toujours inconnus, qui sont toujours un peu volatiles comme ça, pour finir son texte quand même sur la pédagogie. Insinuant que les écoles devraient, dès la formation, hein, également combattre et non pas cultiver cette manière de fonctionner dans ce qu'on appelle le studio de projet. Hein.
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauf sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de...
Le musical est forcément Anne Sylvestre, parce que parmi les chanteuses militantes, celle qui a exalté le féminisme, c'est bien elle. Donc elle mérite ce petit hommage un peu trop rapide. J'imagine que dans votre code, les lectrices et lecteurs qui vous écrivent ou qui vous questionnent pendant à la suite de vos conférences doivent vous demander quand même, c'est le truc qu'on demande toujours, hein, dit, et concrètement, ça veut dire quoi une architecture féministe? Alors qu'est-ce que vous répondez là?
Alors je suis tout à fait d'accord, cette question revient toujours, c'est un peu comme le développement durable, hein. C'est devenu un label et il faut cocher des cases et c'est là la dérive de tout le développement durable. Pour le féminisme, c'est un peu la même chose, hein. Ça, ce qui à mon avis ne ferait pas sens au vu de l'importance contextuelle de la période, du fait de devoir vraiment situer les projets, hein, de les situer, ce que le féminisme appelle de manière générale. Alors, les textes que j'ai choisis semblent effectivement revenir surtout sur les méthodes et le programme, mais on peut quand même lire, ou en tout cas percevoir, des spatialités qui sont contraignantes. La suburb américaine, parce que bon, c'est le contexte aussi, hein, ce sont des textes nord-américains, mais on va dire que ce rêve américain, avec tous ses dispositifs spatiaux, l'étalement urbain, ses infrastructures, la maison individuelle, la disparition de l'espace public ou des communs, sont la critique principale de ces spatialités. Mais les questions, en tout cas, que l'on peut se poser, nous, en faisant du projet, hein, en tant qu'architecte ou qu'urbaniste, renvoie aux mobilités, aux usages, aux sentiments de sécurité, à l'occupation de l'espace, à la visibilité. Mais s'il y avait des questions à se poser, hein, je les résume à quatre. Qui a le pouvoir de faire la ville ou l'architecture? Qui a la possibilité de se faire entendre et donc qui n'a pas la possibilité de se faire entendre, hein. On le voit beaucoup dans les démarches participatives, hein, avec ses limites aussi de non-prise en compte de certains publics qui sont de toute façon invisibles. Donc comment les rendre visibles? Qui est ignoré, mis de côté et qui ne fait pas partie des réflexions? Donc, plutôt que de parler de spatialité en termes de comment est-ce qu'on fait, etc., c'est toujours de se poser ces questions et d'essayer...
Alors, comme on est à la radio, c'est difficile de montrer des images, évidemment, et de montrer des plans qui auraient été réalisés par des femmes architectes féministes. J'insiste là-dessus, parce qu'il y a des femmes architectes qui ne sont pas préoccupées par cette question, ou du moins pas immédiatement. Et j'avais rencontré comme ça des agences allemandes ou espagnoles, que de femmes. Et je voyais, ensuite, quand j'ai visité les logements, je voyais que c'était tout à fait autre chose, effectivement. Donc il y a bien là quelque chose qui démarque quand même dans l'approche de l'organisation du logement, par exemple, pour prendre le logement, parce qu'on cantonne aussi les femmes au logement. Hein, les grands gestes architecturaux, les musées, les aéroports, ça, c'est généralement quand même les
masculins.
Voilà, masculins, les stars en plus, les vedettes. Bon. Et donc, est-ce que là, vous-même, vous avez rencontré des femmes comme ça, praticiennes, et qui revendiquent cet aspect-là, et qui le réalisent?
Alors, voilà, si on se retourne sur la Suisse et l'Allemagne, parce qu'on en discutait tout à l'heure, ce sont vraiment des lieux où les questions de mixité programmatique et de mixité générationnelle sont vraiment mises de l'avant, avec tout un tas de services, et qui sont d'ailleurs, dans le texte de Dolores Hayden, de ces féministes du 19e siècle, hein, les Material Feminists, qui renvoyaient aussi à ces espaces des communs. Alors, ces communs-là reviennent toujours lorsqu'il s'agit de conceptions de logements, hein, d'immeubles d'habitation, où on réfléchit à des programmes à la fois qui puissent faciliter la vie des gens, on va dire comme ça, hein, je sais pas moi, annexion d'une crèche, d'une cuisine communautaire, d'espaces collectifs au sein de l'opération.
Des buanderies, etc.
Tout à fait. et qui aujourd'hui, parce que les coopératives des pays germaniques voilà, reviennent comme un sujet d'architecture, sont quand même remobilisées. Donc ça, c'est clair. La question des mobilités aussi me semble assez récurrente dans ces approches-là, c'est-à-dire réfléchir à l'échelle de la ville à ce moment-là, aussi à des mixités qui renvoient au fait que la femme, dans la même journée, va se déplacer énormément, faire beaucoup d'allers-retours. Hein. C'est en général encore et toujours elle qui accompagne les enfants, qui les prend chez les médecins, qui s'occupe de ses parents, etc. Sans faire trop de généralités quand même, alors que les hommes ont un ou deux trajets plus linéaires. Et donc, voilà, comment est-ce que la ville, comment est-ce que la mise en place des transports communs, etc., est réfléchie pour répondre à ces questions-là?
Alors, il est certain que le découpage de la vie quotidienne, le partage des tâches, comme on disait à un moment donné, est quelque chose qui n'est jamais acquis. Il faut, je lisais des textes des années 70, 72, où il y avait, dans certaines catégories de la population, des velléités d'un partage à peu près équitable. Et puis, ça s'est fait, enfin bon. Et je m'aperçois que 20 ans plus tard, il faut recommencer. Parce qu'on observe que même un jeune couple d'aujourd'hui, de 22, 23 ans, comme si ça allait de soi, finalement, il y a une division presque qui tombe du ciel, une division sexuelle des tâches.
Oui, et puis la Covid nous a bien montré, a bien fait ressortir cette notion de charge mentale. C'est-à-dire que même si, voilà, j'en sais rien, on va prendre n'importe quel exemple, dans un couple, la femme fait le ménage et l'homme fait la cuisine, la charge mentale revient aujourd'hui majoritairement à la femme. Donc, qui prend les rendez-vous, qui...
Et du reste, beaucoup de femmes n'étaient pas aussi heureuses que ça du télétravail.
Bah, tout à fait.
Parce que je disais, au moment, quand j'étais hors de la maison. J'avais pas tout à fait.
Tout à fait.
Alors, je voulais vous poser une question, mais peut-être que vous n'avez pas de réponse, parce qu'elle est un peu saugrenue. C'était que parce que je travaille dessus en ce moment, sur des femmes que je trouve absolument admirables, qui sont des théoriciennes de la ville. Et donc, j'en citais quelques-unes, Françoise Chouet, Colette Pétonnet, Anne Coquelin, pour prendre des Françaises seulement. En fait, aucune d'elles ne met en avant une approche qui serait une approche soit genrée, soit féministe.
Tout à fait. Et
c'est une question de génération, à votre avis ?
Je pense qu'il y a la question de la génération, bien sûr. Mais je pense aussi que le mot féminisme a aussi mauvaise réception et mauvaise représentation. C'est un mot qui fait aussi peur à énormément de personnes. C'est ce que nous dit Scott Brown dans son texte. Hein. Je l'ai publié 10 ans plus tard, à un moment donné où la conjoncture permettait de le publier,
de le faire lire.
Exactement, alors qu'elle l'avait écrit 10 ans auparavant. Alors, une enseignante et critique de l'architecture que j'interrogeais récemment m'a dit quelque chose d'assez intéressant alors que je lui parlais de parité dans les écoles. Elle m'a dit qu'elle avait été longtemps rétive à cette idée-là parce que philosophiquement, pour elle, on va tous travailler fort et petit à petit, on va arriver au même niveau que les hommes. Mais une fois au milieu de sa carrière, elle s'est bien rendue compte que travaillant autant et sinon plus, elle n'y arrivait pas. Et elle se dit finalement, cette parité imposée, elle est pour l'instant toujours obligatoire comme un moyen de transition. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, ce déplacement de la pensée, de penser qu'en réalité, je ne suis peut-être pas féministe parce que l'égalité est là et que je la prône naturellement. J'ai pas besoin de me dire féministe puisque les valeurs de la République nous disent que l'égalité existe. Donc pourquoi est-ce que je la revendiquerais en plus ? Mais en pratique, lorsqu'on voit que cette égalité n'est pas là, c'est à ce moment-là qu'on remobilise le féminisme et ses pensées pour tenter de bouger les choses.
C'est très difficile parce que, enfin, on ne va pas résoudre la question maintenant. Dommage du reste. Mais c'est vrai que si on veut qu'il y ait plus de femmes élues, quel que soit si c'est des maires, députés, etc., je pense qu'on ne peut pas échapper au quota. Parce que sinon, ce sera toujours des hommes qui seront majoritairement sur les listes. Par contre, dans le recrutement des enseignants, parce qu'il se trouve que je suis dans des commissions de recrutement, je ne donnerai aucun exemple précis, bien sûr, mais l'autre fois, j'étais très, très chagriné, enfin, même mécontent, parce que la présidente de l'université avait soufflé à la présidente du jury qu'il fallait que ce soit une femme. Et donc, on a pris une candidate qui était moins bonne que le candidat masculin. Et ça, j'ai trouvé ça mal foutu, parce que alors maintenant on le voit bien, on crée, on nomme, surtout dans le domaine de la culture, des femmes à la tête des musées, des femmes à la tête des opéras, des femmes à la tête des théâtres. Je trouve ça très très bien, mais je pense qu'il ne faut pas en faire une notion comptable. Là, c'est là où l'égalitarisme pose problème. Mais on va, comme l'émission se
oui,
précise...
Oui, et je répondrai tout à l'heure à cette question, parce que j'ai un tas d'études là-dessus, mais je vous en parlerai, oui.
Mais, mais alors, bon, maintenant, vous enseignez dans une école d'architecture, est-ce que vous percevez, est-ce que vous entendez, parce que c'est le titre de votre livre, est-ce que vous entendez les voix féministes arriver à vos oreilles ?
Énormément. Alors là, c'est mon côté très proche des étudiants, mais ces voix-là, elles ne s'élèvent pas seulement, mais elles sont très en colère. Elles sont en colère vis-à-vis des écoles, vis-à-vis du ministère. Voilà, on en a déjà parlé avec toutes les instances des écoles et du ministère, mais les étudiants sont toujours et encore en colère. Ce ne sont pas seulement des voix qui s'élèvent, hein. Donc, je voudrais aussi revenir sur deux choses là-dessus. Donc, tout d'abord, au niveau des contenus, des méthodes et des approches. Donc là, ce sont vraiment des questions de contenu, de pédagogie. De plus en plus d'étudiants proposent des projets et des mémoires sur le sujet. Non seulement ils s'en emparent, mais c'est aussi des lieux de réflexion pour eux. Il y a même une bibliothèque en ligne aujourd'hui qui recense tous les travaux sur le genre menés dans les écoles d'architecture. Et au niveau des violences, nos écoles sont un désastre. Donc les voix s'élèvent, elles sont en colère. Et pourtant, il existe des articles, comme l'article 40 du Code pénal, qui exigent de tout fonctionnaire qui voit sous ses yeux se dérouler une scène qui serait de l'ordre du délit, d'en appeler le procureur de la République.
Mais contrairement à d'autres écoles, les grandes écoles de commerce, par exemple, où il y a eu la dénonciation du harcèlement sexuel, qui touchait aussi des garçons, pas seulement que des filles, les écoles d'archi tardent un peu à se faire entendre. Vous vous dites que ça arrive, quoi.
Ben, c'est arrivé, ça arrive. Il y a eu beaucoup d'articles dans les médias les dernières années. Mais je dirais qu'il y a un entre-soi dans les écoles d'architecture qui est très particulier, où l'enseignant est aussi chef d'agence, est aussi un peu partout dans les instances et dans les collectivités, et donc reproduction du système et peur de la part, lorsque ce sont des étudiants, par exemple, des étudiants de s'exprimer. Alors, tant que le harcèlement est permis, tant qu'il y a une culture de l'impunité qui ne fait qu'entretenir le phénomène, on n'en finira pas.
Alors, je vais juste mentionner quelques autres événements qui ont cours en ce moment sur cette même thématique. D'abord, la publication en français d'un livre de Leslie Kern, Ville féministe, vous l'avez lu ?
Non, pas encore.
C'est un texte publié à Montréal.
Oui, qui vient juste de sortir. Voilà, ouais.
Dont j'ai rendu compte dans Esprit. Et puis, à Vierzon, je viens d'apprendre qu'il y a une biennale qui s'intitule « Infinie liberté, un monde pour une démocratie féministe ». Donc le titre est très clair, et c'est évidemment une coproduction avec le FRAC Centre-Val de Loire.
Oui.
Et la marraine, j'aime pas trop cette expression, mais enfin c'est ce qui figure dans dans le système de presse. La marraine est Anna Ehringer, que je trouve absolument extraordinaire, qui est une architecte autrichienne qui travaille beaucoup sur la terre, mais la terre ici, bien sûr au Sahel, mais pas seulement. Et elle a cette définition, enfin elle écrit dans le rapport de présentation de cette expo, cette phrase sur laquelle j'aimerais avoir votre opinion. Elle dit « Être femme est une manière de penser ».
Tout à fait. Être femme est une manière de penser, de par les constructions sociales, de par la nécessité de réfléchir autrement aussi que dans les codes dans lesquels, par moment et pour certaines, il y a lutte permanente.
Alors, on va peut-être conclure juste sur la ville, parce qu'on n'a pas parlé de l'urbanisme. Depuis très longtemps, je définis l'urbanisme comme le moment occidental et masculin de la fabrication de la ville productiviste, sans que ça chahute les neurones des urbanistes, hommes ou femmes. Mais c'est pas grave, je m'obstine, je continue à dire ça, parce que la ville est même aujourd'hui, je dirais même plus, pour l'homme blanc. Pour l'homme blanc solvable, en bonne santé et actif. Et me promenant dans les villes, je vois que beaucoup d'inactifs sont là. dont beaucoup de femmes, des retraités, des scolarisés, etc., des chômeurs. Et donc là, il y a quand même, je pense, une transformation en cours, qu'on le veuille ou non, où la ville n'est plus dans la fonctionnalité, l'efficacité, la rationalité et tout ce qui va avec, le zoning oui. et tous ces trucs-là. Mais on entre vraiment peut-être dans autre chose. Et c'est là où peut-être que les voix féminines et féministes peuvent se faire entendre, non ?
Ah bah je l'espère, mais je pense qu'on est encore dans tout ce que vous parlez. Vous avez quand même décrit des situations de vulnérabilité et ce sont souvent les voix les moins entendues, les moins visibles, que l'on sait très bien cacher, que l'on sait très bien repousser dans la ville, physiquement, je veux dire au niveau de ce qu'on voit ou pas. Ce sont les gens qu'on rend invisibles. Et donc, voilà, la ligne de tension est là. J'ai bien espoir, comme vous, que ces voix-là se fassent entendre et que réellement, il y ait des conséquences. Mais voilà, je n'ai pas envie d'être pessimiste, là, sur... je suis quand même un peu plus pessimiste.
Mais qu'est-ce qui serait assez facile à mettre en œuvre tout de suite, qui serait qualifié de féministe dans une ville ?
Pour moi, c'est d'inclure ces gens dans la vie citoyenne. Vous dites, ce sont des personnes âgées qui sont à la retraite, ce sont des femmes inactives qui ont décroché de l'école. Donc on est dans tout ce qui n'est pas la vie citoyenne, en tout cas telle qu'on l'a définie en Europe.
Ouais.
Donc,
oui,
parce que si on peut être dans d'autres modes de fabrique de la citoyenneté. Mais ici, on est dans ce type de citoyenneté, et tant que ces gens-là sont dans les marges, elles vont s'invisibiliser de plus en plus.
Ben écoutez, Stéphanie Dadour, merci beaucoup.
Merci
à vous. Je redonne votre nom entier. Et puis le titre, « Des voix s'élèvent, féminisme et architecture », un ensemble de textes, c'est une anthologie, publiée aux éditions de La Villette. On peut rappeler que c'est traduit par Marie Van Neufenter.
Oui, bien important.
Et bien traduit. Merci bien. Beaucoup.
Merci beaucoup.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.